Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Ce soir, j'ai un message très simple pour vous, très simple à comprendre, mais très profond et très puissant. Et je voulais faire Adulam, et Dieu m'a dit non, Adulam c'est pour le week-end prochain. On va faire une pause entre Bethléem et Adulam, pour vous laisser respirer un peu. Qui aime Bethléem ? D'accord, ceux qui n'aiment pas Bethléem, vous resterez plus longtemps. C'est ça le problème. Et ce soir, ce verset qui dit « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Je t'ai gravé sur mes mains. Le mot gravé, en fait, peut être traduit par le mot tatoué. Alors, je sais qu'il y a souvent dans les églises un conflit entre est-ce que le tatouage vient de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu, et le piercing et tout ça. Église, si le gars qui est tatoué ne peut pas être chrétien, c'est molle pour lui. Et si Dieu est limité par un tatouage, ce n'est plus Dieu. Parce que Dieu n'est pas limité ni par un tatouage, ni par un style d'église, ni par un style de vêtement, ni par un style de cheveux. Dieu n'est pas limité par une façon de parler. Dieu est illimité. Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut faire ou dire ou croire. Dieu existe avec ou sans nous. Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Dieu est majestueux. Dieu aime les tatoués. Dieu aime les non-tatoués. Dieu aime ceux et celles qui portent un piercing dans le nombril et tous. Dieu aime chaque personne ce soir dans ce lieu. Ne forcez pas votre opinion sur les gens. Église, ne forçons pas notre opinion sur les gens. Laissons Jésus toucher le cœur de ceux et de celles qui nous entourent. Aimons les gens. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tous on se fasse tatouer, d'accord ? Je suis en train de dire que Jésus-Christ a tatoué ton visage dans la paume de ses mains. Vous savez pourquoi est-ce que nous demandons souvent, nous voulons lever nos mains vers le roi des rois ? Vous savez pourquoi ? Quand on fait ça, on lui rappelle qui est gravé dans la paume de ses mains. J'aime faire les high five avec Dieu. C'est comment c'est en français ? Tape là-dedans, quoi, tu vois ? Un check. La main. Bam ! Quand je loue Dieu, j'aime bien faire ça. Seigneur, c'est toi, ta main dans ma main. Je me souviens qu'il a gravé mon visage et ton visage dans la paume de sa main. Ce soir, le titre de mon message est très très simple. Le poids de notre adoration. Le poids de notre adoration. Et je vais commencer par dire la fin du message. Et ensuite, je vais revenir sur le début. Vous êtes prêts ? Le poids de notre adoration, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Écoutez bien cela. Le poids de mon adoration, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est extrêmement important de comprendre ça ce soir. Mais c'est quoi l'évangile ? Parce que beaucoup de gens, malheureusement, même dans les églises, ont du mal à comprendre ce qu'est l'évangile. La plupart des gens pensent que l'évangile, c'est venir vers Dieu pour que Dieu nous donne une meilleure vie, pour qu'on soit moins pire, pour qu'on soit moins mauvais. On vient vers Dieu pour avoir un meilleur mariage ou une meilleure maison. On a des problèmes de santé et ce n'est pas mal, mais ce n'est pas l'évangile. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour que nous ayons une plus belle voiture. Il n'est pas mort sur la croix pour que nous soyons moins pires. Ce n'est pas ça l'évangile. Les gens pensent que nous sommes mauvais à cause du péché. C'est pas ça l'évangile. La vérité est pire que cela. Le péché ne te rend pas mauvais. Et le péché ne me rend pas mauvais. Non, le péché me rend mort. C'est pire qu'être mauvais. Regarde, quand tu es mort, tu es mort. Et quand quelqu'un est sans Christ, quand quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, quand une personne n'a pas accepté l'évangile de Jésus, qu'il n'a pas fait de son Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, il est mort même s'il est vivant. Son âme est mort, son cœur est mort, son esprit est mort. Il ne vit pas même s'il vit. Tu me comprends ? Il est mort sur ses pieds. Jésus-Christ est mort pour nous sauver et nous délivrer de la mort, du péché. Romains 6, 23 nous dit « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. » Le salaire que verse le péché, c'est la mort. Pas « je suis mauvais », la mort. Mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. On l'évangile, c'est lorsque tu comprends que Jésus-Christ t'a sauvé. Vous savez, souvent j'entends les gens me dire, tu sais, moi j'ai pas un bon témoignage, tu sais, j'ai pas un grand témoignage comme Nicky Cruz ou quelqu'un qui était dans un gang. Tu sais, hier j'écoutais un témoignage fort, le gars était dans un gang, le gars a tué des gens, le gars a massacré des familles et aujourd'hui il est chrétien, ça c'est un témoignage. Et moi, tu sais, j'ai pas été dans un gang, mais tant mieux. J'ai pas tué personne, mais tant mieux. J'ai pas été en prison, mais gloire à Dieu, purée. Non, je regrette. J'ai pas un bon témoignage, j'ai pas un grand témoignage. J'ai pas été en prison, j'ai pas fumé de cannabis, j'ai pas pris de la drogue, j'ai jamais été déchiré, jamais. Jamais été australopithèque, jamais. Jamais. Et le gars dit, j'ai pas de témoignage. Mais tu rigoles ou quoi? Tu as le même témoignage que le dealer de drogue. Tu as le même témoignage que le gars qui paraît tout beau, tout nouveau, tout blanc. Tu as le même témoignage que le banquier qui paraît super cool. Parce que chacun d'entre nous, nous étions morts et nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Donc ton témoignage est par définition puissant. Quand on dit, c'est quoi ton témoignage? Facile, j'étais mort. Ah ouais? J'étais mort, j'étais pas déchiré, j'étais mort. Et maintenant je suis vivant. Jésus-Christ vit en moi. J'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais perdu et maintenant je suis retrouvé en lui. Église, le témoignage que tu as ce soir, c'est l'évangile de Christ qui t'a sauvé, délivré, sanctifié, lavé par le sang de l'agneau. La plupart des gens pensent que ça c'est une... Ouais, c'est cool. C'est pas cool, c'est la vie. Mais quand l'Église oublie ça, leur adoration devient fragile et superficielle. Écoutez bien ça. Le poids de mon adoration, c'est l'Évangile. Mais si mon évangile est édulcoré, si mon évangile est superficiel, si mon évangile est émotionnel, si mon évangile dépend des circonstances, si mon évangile dépend d'une religion, si mon évangile repose sur un homme ou sur une femme, alors mon adoration n'aura pas de poids. Mais si mon évangile est le vrai évangile, Christ mort et ressuscité pour moi, pour me donner la vie avec en éternité, me donner un nouveau cœur, un cœur nouveau, un cœur de chair, et faire de moi une nouvelle créature. Chaque jour quand je me lève, je me dis, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ah! Est-ce que tu comprends ce qui se passe en toi? Quelque chose te dit, c'est ça, j'ai oublié ça. Et ton adoration perd de sa puissance lorsque tu oublies d'où tu viens. Mais quand tu te lèves le matin, tu fais, mais tu sais, j'avais mon nom qui était inscrit dans le livre de guerre de Satan. Et aujourd'hui, il est inscrit dans le livre de paix de Jésus. Tu as envie de l'adorer. Le poids de ton adoration repose sur la révélation de l'Évangile. Éphésiens 2, verset 1, on va lire un passage puissant, magnifique. Écoutez bien ça, ça parle de nous. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, Satan, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon le désir d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps, notre esprit poussait à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu, riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre. Tout le monde dit revivre. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble, nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Écoutez bien l'image. À une époque, vous et moi, nous étions au plus bas des plus bas, dans le trou le plus sale et le plus pourri qu'on appelle la mort du péché. Et aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble, assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, une vie remplie de sa présence. Quelque chose s'est passé entre le trou pourri du péché, de la mort, au siège de gloire de la présence de Dieu sur terre. Il l'a fait afin de démontrer par tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Aucun homme ne peut vous sauver. Aucune église ne peut vous sauver. Aucun curé ne peut te sauver. Aucun pasteur ne peut te sauver. Un gourou n'est qu'un kangourou. Une philosophie, ça ne sert à rien. Le Dieu unique qui te sauve s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. J'aime la parole de Dieu. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. 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 Le poids de l'évangile. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Écoutez bien ça. Paul dit ici, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Écoutez bien ça, moi j'aime beaucoup l'aéronautique, je suis intrigué par la technologie. Il le sait, je suis un I. Le I, c'est celui qui s'intéresse à toutes les nouvelles technologies. Moi j'aime les nouveaux téléphones, les nouveaux ordinateurs, les avions. Je suis fasciné par ça. Je trouve vraiment bizarre qu'on puisse écrire un message en Thaïlande et faire envoyer, et dans la seconde même, le millième de seconde, le gars en Russie reçoit, et le gars à La Réunion reçoit. Je trouve ça énorme. Je dis, mais comment le gars a fait? Aujourd'hui, vous savez, peut-être que c'est énorme, mais il nous faut, attendez, j'ai noté ici pour ne pas dire de bêtises, mais il nous faut, écoutez bien ça, pour ceux qui veulent aller un jour, 87 heures pour atteindre la Lune. En 87 heures, Steph, sur la Lune. 87 heures, je sais pas si tu imagines le truc, quoi. Et si tu vas aller un peu plus loin et tourner autour de Jupiter, il te faut 6 ans et demi. En 6 ans et demi, si tu veux faire un tour dans la mare de la Terre, tu vas autour de Jupiter, au bout de 6 ans, tu y es. À une vitesse de fou de 40 000 km heure. Ça va très très vite. Comme ça. T'as pas vu, mais j'ai fait ça, en... voilà. Et je me dis, mais écoutez bien ça, tu rentres dans une navette spatiale faite par des humains. Et avec un petit bouton, un peu plus, hein, mais pouf, tu es projeté, tu es propulsé dans l'espace. Et pouf, sur la Lune, en 87 heures. Mais malgré la prouesse technologique de l'homme, malgré toutes les inventions extraordinaires, aucune machine ne peut te faire passer de la mort à la vie, changer ton cœur comme Jésus-Christ le fait. Aucune machine ne peut changer ta famille et ton âme et te propulser du trou de la mort au siège de la vie. Aucune machine. Ils ont beau essayer, ils n'y arrivent pas. Il n'y a qu'un seul Dieu qui vient dans la vie de quelqu'un, qui prend son cœur, qui enlève la culpabilité, la haine, la rancune, la colère, l'amertume, la tristesse et tout ce qui peut souiller ta vie et dire, mais viens avec moi, je t'offre une vie du trou de la mort au siège de la vie. Pas une navette humaine, un ascenseur divin. Écoutez bien ça. Je vous propose ce soir d'arrêter d'acheter des billets de fortune pour aller dans une navette humaine alors que tu as un billet gratuit dans l'ascenseur divin. De quoi il parle? Pas ça devenu fou, non? Comment fonctionne un ascenseur? La cabine est attachée à des câbles. Je simplifie, hein, c'est le système. Attachée à des câbles qui passent par une grosse poulie. Et la poulie continue. Et de l'autre côté, il y a un contrepoids. Et bien sûr, pour que l'ascenseur puisse monter, il faut que le contrepoids soit plus lourd que l'ascenseur. Oui ou non ? Si l'ascenseur est plus lourd que le contrepoids, t'as beau peser sur le bouton, l'ascenseur ne décollera pas. Écoutez bien ça, il ne montera pas vers le ciel si le contrepoids n'est pas assez lourd. Mais le contrepoids que Dieu a mis s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est tellement lourd que ma vie et celle de mes amis, et celle de ma famille, celle de ma nation peut entrer dans cet ascenseur vers le ciel et me faire décoller et quitter le monde de péché et rentrer dans la présence de Dieu, parce que le contrepoids, c'est l'évangile. Ce contrepoids me permet de monter au ciel. Alors, quel est le poids de mon adoration ? Quel est le poids de, lorsque je viens vers le trône de Dieu, que je lève ma voix et que j'offre ma vie vers lui, à quelle altitude je peux monter vers Dieu si le contrepoids n'est pas l'évangile ? Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à adorer Jésus parce que leur adoration est basée sur les circonstances et leur contrepoids, c'est les circonstances. D'autres, c'est l'argent. Leur contrepoids, c'est de l'argent. Si le compte est rempli d'argent, l'adoration est facile. Mais si le compte est vide, l'adoration est difficile. Mais mes amis, l'évangile ne change pas. Quand le contrepoids, c'est l'évangile, ce que Jésus-Christ a fait pour vous et pour moi, l'adoration est constante et permanente et continuelle. Parce que tous les jours, je me rends compte que je suis une nouvelle créature et que mon nom est inscrit dans le livre de vie. 1 Pierre 3, 18 nous dit, le Christ lui-même a souffert le contrepoids, le poids du péché, la mort pour les péchés, il a pris nos péchés, il s'est offert pour nous. Le contrepoids de Dieu nous fait décoller. Et il dit une fois pour toutes, lui l'innocent, il est mort pour des coupables. Nous, vous et moi, nous étions coupables. Mais pas ce soir nous sommes libérés. Ce soir nous ne sommes plus des Australopithèques. Afin de vous, écoutez bien ça, conduire à Dieu. Tout le monde dit conduire. Le mot conduire signifie prendre quelqu'un, l'amener dans la présence d'un autre, mais il implique aussi que ce n'est pas juste amener de façon latérale, c'est amener plus haut. C'est comme si je disais, viens Harold, je te prends par la main et je t'amène sur l'estrade vers James. Le mot conduire, c'est amener quelqu'un dans la présence d'un autre qui est plus élevé que moi. L'ascenseur de Dieu. Si tu veux que sa présence, que ton adoration devienne profonde, réelle, lourde, pense à la révélation que tu as vraiment de l'évangile de Christ ce soir, maintenant même. Est-ce que tu viens à l'église parce que l'église est fun, parce que tu te sens bien, et c'est chouette, et c'est important. Vous avez vu que nous voulons tout faire pour que vous vous sentiez bien. On veut progresser dans la louange, l'adoration, j'essaye de parler moins vite, ce qui est difficile. Je sais. Romains 12, 1 nous dit, je vous invite donc, frères, écoutez ça, à cause de cette immense bonté de Dieu, à cause de cette immense, écoutez bien ça, à cause de cette immense bonté, ce poids de l'évangile, la bonté de Dieu. À cause de ça, à cause de ce contrepoids-là, à cause de cette révélation, si tu comprends la bonté de Dieu, si tu comprends sa miséricorde, si tu comprends son amour, sa grâce, sa paix, sa joie, si tu comprends l'évangile, si tu comprends qui il est, si tu comprends ce qu'il a fait pour toi, si tu comprends la vie qu'il a pour toi, alors offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Alors quand on parle de sacrifice, on ne parle pas de ces gens qui sont mystiques, qui se coupent, qui se taillent. Non, 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 Dieu t'aime trop pour te massacrer. Il n'est pas mort pour te tuer, il est mort pour donner la vie. Vous savez, dans toutes les religions ou presque, il y a ce côté de sacrifice. Je vous garantis que la plupart des religions parlent, vous savez, de sacrifice. On porte sa croix, on se flagelle, on fait des trucs, on brûle des encens et tout. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais à ce côté, je me sacrifie, je paye le prix, je marche sur le feu, en espérant que ça fonctionne. Et l'autre gars fait ça, et il y a même des pseudo-chrétiens qui portent des croix littérales, ils se font mal et tout. Mais mon ami, mais quand tu regardes la parole de Dieu, la différence qu'il y a entre ces religions et le christianisme, C'est que le chrétien, il porte une croix spirituelle qui lui donne de l'autorité, de la puissance spirituelle en Christ. Parce que la croix de Christ est totalement unie à la résurrection de Christ. Dans les autres religions, il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de puissance. Il y a « j'essaye de plaire à mon Dieu ». Mais dans la vie chrétienne, il y a une résurrection. Dieu est venu me sauver, me restaurer, me libérer, me transformer, me changer. J'ai presque fini. Dans Exode 3, 12, la parole de Dieu nous dit « je serai avec toi », lui répondit Dieu. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne. Quand tu quittes le monde, quand tu quittes non pas le monde dans lequel on vit, je te parle de cette façon de penser, la vie de péché, le mensonge, la rancune, la colère, l'amertume, le vol, ce que tu veux, l'adultère, la fornication, tout ce qui n'est pas de Dieu. Et que tu quittes ça, et ta vie quitte ça, Dieu te sort de cela, c'est pour que tu viennes adorer sur la montagne de Dieu. La raison pour laquelle j'ai vraiment eu à cœur d'apporter ce simple message ce soir, c'est parce que je me rends compte que beaucoup de chrétiens ne savent pas adorer Jésus. Ils chantent des chants et c'est bien, et ce n'est pas une vie d'adoration, c'est une vie où il faut encourager la personne à adorer Jésus. Mais mon ami, quand tu es chrétien, tu n'as pas besoin d'être encouragé à adorer Jésus. C'est quand tu adores Jésus que tu es encouragé. Allez, s'il te plaît, Cédric, je t'en supplie. Oh, adore Jésus. Ouais, bon, ok, ça te fait plaisir, pasteur, c'est bon, je vais y aller. On y va. Non. Psaume 40, verset 2 nous dit, écoutez ça comment c'est magnifique. Même principe, même concept, l'ascenseur. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a prêté l'oreille, moins fort, merci. Il a prêté l'oreille à ma supplication. Il s'est penché vers moi. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout les pieds sur un rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'Éternel et lui faire confiance. Écoutez ça. Quand les autres voient la valeur que tu donnes à l'Évangile de Christ, ils veulent aussi goûter à l'Évangile. Le problème des gens à La Réunion, vous savez, moi je vis ça tous les jours, c'est que les chrétiens, les gens, ont grandi dans un système religieux. Si tu n'es pas catholique, tu n'es pas catholique. Tu n'es pas chrétien. C'est une secte. C'est grave, c'est dangereux. Et je comprends, je peux comprendre qu'on soit parfois ignorant, on ne sait pas ce qui se passe. Mais quand tu es un vrai chrétien, tu t'en fiches de savoir si tu es protestant, catholique. C'est pas important, ça. Ce qui importe, c'est est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et la louange qui sort de ton cœur, la louange qui sort de ta vie, donne envie aux autres à révérer l'Éternel. Révérer l'Éternel. Alors je conclue avec ce soir avec ces pensées pour vous. Si mes circonstances sont le poids de mon adoration, alors mon adoration sera aléatoire, comme les circonstances. Si mes émotions sont le poids de mon adoration, le contrepoids, si vous préférez, alors mon adoration sera superficielle, tantôt euphorique, tantôt aseptisée, comme mes émotions. Si mon adoration dépend du son, des lumières, du groupe de louanges, de l'église présente, alors dès l'instant où je quitte ce lieu, mon adoration meurt. Mais si mon adoration, si le poids de mon adoration, c'est le poids du sacrifice de Jésus dans mon cœur, si je médite sur ce que Jésus-Christ a vraiment fait pour vous et pour moi, alors mon adoration est constante, elle est glorieuse, elle est spirituelle, elle est importante, elle a un impact. Et ce n'est pas seulement les chants, c'est ma vie. Dans Matthieu 16, 13 à 20, Matthieu 16, 13 à 20 nous dit, Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent, mais pour les uns c'est Jean-Baptiste, et pour d'autres Élie, et pour d'autres encore Jérémie, ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Quelle est ta révélation de l'Évangile? Quel est ton cœur envers moi? Et Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, béni, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Une parenthèse importante, il me semble que ce passage est souvent utilisé par les chrétiens catholiques pour dire que Pierre est le premier pape et que l'Église repose sur le pape, le premier pape Pierre. C'est faux, totalement faux. Les mots Pierre ici, c'est un jeu de mots de Christ. Christ faisait des jeux de mots. Le mot Pierre, c'est le mot Pétros. Pierre, le nom, Pétros, qui signifie une petite pierre, partie intégrante du roc. Qui est Jésus-Christ. Deuxième mot, sur cette pierre, ce roc, Petra, en grec. Jésus disait à Pierre, Pierre, tu es une Petros, une partie de mon roc. Moi, le Christ, je suis Petra. Et il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. L'Église ne repose pas sur un homme, ni sur une mission, ni sur un don. L'Église repose sur Jésus-Christ de Nazareth, qui est la pierre angulaire, le seul, unique sauveur du monde entier. Unique. Alors pourquoi est-ce que ce soir, ce message est si important aux yeux de Dieu? Parce que lorsque tu commences à réellement comprendre la profondeur et le poids de l'Évangile, ton adoration devient constante. Mais quand tu oublies cela, il est facile d'oublier d'où nous venons. Exemple, lorsque nous critiquons les autres, lorsque nous nous mettons à juger les gens sans les connaître, sans leur parler, sans vouloir leur comprendre, et qu'on n'entend que des on-dit, et qu'on juge, et on critique, et on n'essaie pas de comprendre, savoir, là, on a oublié la puissance de l'Évangile. Parce que Jésus-Christ sauve aujourd'hui n'importe quelle personne qui demande de l'aide. N'importe qui crie « Seigneur, sauve-moi !» Jésus va courir à fond avec passion et joie, prendre dans ses bras, laver son cœur de son sang, sanctifier sa vie, l'élever, le fortifier, l'encourager, sauver sa famille et son cœur et son âme. Jésus sauve toujours aujourd'hui !»